Je vous invite à prendre dans votre Bible une nouvelle parabole, celle du juge, qu'on appelle le juge inique. Et elle se trouve au chapitre 18 de l'évangile de Luc. Et on va lire les versets 1 à 8. Luc 18, versets 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête ». Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Prions Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te remercier pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, parce que tu l'as laissé pour notre instruction, Seigneur. Merci pour cette parabole, tu la donnes pour nous encourager, Seigneur, à toujours prier et à persévérer, Seigneur, dans la foi. Nous voulons apprendre de toi, Seigneur, aujourd'hui encore, au travers de ta parole. Dispose nos cœurs à l'écoute, Seigneur, de ta voix. Permets, Seigneur, donne-moi de te rester fidèle, Seigneur. Je prie pour que tu portes, Seigneur, ces paroles au plus profond de nos cœurs, qu'elles produisent un fruit abondant par Jésus-Christ. Amen. Cette parabole de Jésus, c'est une parabole qui est liée directement avec ce qui précède. Vous savez, dans la Bible originale, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas même de verset, de numéro de verset. Et ce qui fait que cette parabole est directement liée avec ce qui précède, au chapitre 17, des versets 20 à 37 notamment, où Jésus répond à la question des pharisiens, au verset 20, « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Et dans sa réponse qu'il donne aux pharisiens, il s'adresse également à ses disciples et évoque les circonstances qui précéderont sa venue. Mais au verset 8, ici, dans notre passage, Jésus dit « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il y a un peu plus d'un an et demi maintenant que j'avais un litige avec deux grandes entreprises françaises. Et un litige qui nous coûtait un pognon de dingue, pour reprendre l'expression, les mots de notre président cette semaine. Et du coup, j'essaie de téléphoner à cette entreprise. Je tombe sur un serveur vocal, normal. Je tape 1, puis je tape 2, puis je tape 4. Et puis là, on me dit qu'on va prendre mon appel. Puis 15 minutes plus tard, j'ai les nerfs. Je suis stressé parce que j'ai écouté pendant 15 minutes une musique qui était là normalement pour m'apaiser, mais qui... vous voyez un peu le genre de musique, quoi. Et là, personne en ligne m'explique rapidement que j'aurais pas dû taper 4, mais 5. Il faut que je recommence. Alors, je recommence. Finalement, la personne m'explique que cette situation n'est pas de son recours et qu'il faut que je prenne rendez-vous téléphonique avec son chef, mais qu'il est en vacances. Rappelez la semaine prochaine. Je rappelle, avec tout le processus, quand j'arrive à joindre la bonne personne, je suis tellement stressé après les 10 minutes de musique. J'ai tellement peur que mon portable, qui a commencé à passablement se décharger, coupe sans que j'ai eu le temps de bien expliquer la chose. Et comme je viens d'expliquer déjà à 3 personnes différentes ma situation, quand j'arrive pour parler à la bonne personne, je commence à bafouiller, je m'embrouille et la personne ne me comprend pas. Et Elle me dit, écrivez-nous. Alors je prends moi finalement le temps d'écrire. Je fais une belle lettre avec toutes les pièces jointes, vous savez, et puis j'envoie tout ça confiant, en recommandé. Et puis je reçois un email. On a bien reçu votre lettre. Vous aurez une réponse dans 30 jours. Et à ce moment-là, je reçois, après 30 jours, cette réponse qui m'indique « Monsieur, tout est normal !» Je dis « Non mais, il y a un problème, je perds plein d'argent avec vous, là. Vous deviez me faire faire des économies, c'est la catastrophe !» Là-dessus, je prie, ou ma femme... vient me voir en me disant « Dis-moi, est-ce que tu t'es occupé d'appeler la société, machin, là ?» J'en peux plus, là. Je suis au bord de la crise. Je prie. « Oh, Seigneur, c'est quand même bête. C'est juste un problème de compréhension. » Et finalement, je me souviens, mais il y a un gars que j'avais reçu une fois, et qui m'avait dit, si jamais vous avez un problème avec ce genre de société, n'hésitez pas à téléphoner moi. J'ai l'habitude de travailler avec ces gens-là. Oh, je prends mon téléphone, je l'appelle, je tombe tout de suite sur lui. Je lui explique la situation. Il comprend. Je suis pas fou. Et il prend contact avec les gens. Et puis il règle le premier problème, première société, puis deuxième société. Et puis cette semaine, je reçois un coup de fil d'une dame de cette société qui nous doit cet argent. Monsieur Bourrel, tout est arrangé. C'est réglé. Vous allez recevoir votre argent dans les prochaines semaines. Je n'ai pas l'argent, mais déjà, je me réjouis en espérance. Vous savez, nos situations désespérées nous permettent de nous souvenir que nous avons un ami accessible, puissant, à qui nous secourt. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous avez une situation qui vous oppresse, qui vous pèse. Est-ce que vous vous souvenez que vous avez un ami fidèle, un ami qui peut vous comprendre, qui va vous entendre, qui vous connaît et qui peut répondre à vos besoins. Le sens des paraboles ne nous est pas toujours donné. Mais ici, Jésus prend le soin de nous le donner au verset 1. Il dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au fond, qu'est-ce qui va me permettre de persévérer? Et cette parabole, elle est premièrement pour ne pas se relâcher. Ensuite, on verra que c'est une parabole pour comprendre qui est notre Dieu. Et puis enfin, on verra que c'est une parabole pour attendre la justice. Regardons tout d'abord le premier point, pour ne pas se relâcher. Pourquoi cette veuve est venue jour après jour, devant ce juge? Elle est venue parce qu'elle était lésée. Elle est lésée dans sa situation. Elle est victime d'une injustice, elle venait plaider sa cause. Et quel est le problème que Jésus entrevoit dans les temps qui précéderont son retour? Dans le chapitre 17, verset 26, je lis « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour des fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Voyez la question qui nous est posée ici. C'est est-ce que l'on est dans cette situation tellement d'attente de Dieu, tellement désespérée, tellement on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de se tourner vers lui et d'entendre et de lui présenter nos besoins. Une vie facile, une vie occupée à manger, à boire, à se marier, à marier ses enfants, à acheter, à vendre, à planter, à bâtir. C'est au fond, la plupart du temps, ce qui nous occupe au quotidien. Mais une vie sans difficulté, une vie où on ne supplie pas Dieu pour de la nourriture, où on peut acheter et vendre, bâtir sa maison, marier ses enfants, sans aucune inquiétude. Cette vie-là, elle nous plonge bien souvent dans l'apathie. Mes frères et sœurs, je suis vraiment reconnaissant que l'on vive en France, dans un pays libre, facile. Mais je sais aussi qu'il y a un grand danger pour nous de connaître une vie facile. C'est celui de sombrer dans cette apathie. Au fond, c'est comme si on pouvait vivre toute notre vie sans Dieu. Sans l'implorer, sans chercher sa face. Sans avoir à venir devant le juge de l'univers pour plaider notre cause. Une vie où la prière n'est qu'une option, pas un besoin vital. Et on vit dans un système, dans une société où finalement on a des recours, on a des assurances, on a des tout ça pour qu'on n'ait pas à venir devant Dieu, le supplier et lui confier notre cause, comme cette veuve. Quand on tombe dans l'apathie, on ne perçoit plus les choses comme elles sont. Maintenant, on a une vision déformée de la réalité. Jésus nous met en garde, au verset 32 du chapitre précédent. Il dit « Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle vivait dans Sodome. » Et Dieu a décidé de juger cette ville. Il dit « Fuyez de cette ville, sortez de là. Et surtout, ne vous retournez pas. » Mais elle, son cœur est tellement attaché à Sodome que finalement, elle sort, puis elle se retourne et elle est changée en statue de sel. Vous voyez, on est en réalité fiancé à Jésus-Christ. Ça, c'est notre identité. Nous sommes fiancés à Christ. Et pourtant, bien souvent, on vit comme une amante du monde, avec nos pensées tournées vers ce monde. Lorsque notre vie est tellement confortable, on finit par oublier que nous sommes voyageurs et étrangers sur cette terre, que nous ne sommes pas de ce monde. Mon cœur s'attache au confort et il finit par convoiter les choses de cette terre plutôt que les choses d'en haut, celles du ciel. Pensez un instant à nos frères persécutés. Porte Ouverte vient de publier il y a quelques mois de son rapport annuel sur la persécution. Il y a 215 millions de chrétiens sévèrement, gravement persécutés dans le monde. En fait, il y a un chrétien sur 12 qui est persécuté dans le monde, gravement. En fait, c'est l'Afrique qui reste le continent le plus violent pour les chrétiens. C'est en Afrique que le taux de chrétiens gravement persécuté est le plus élevé. En Afrique, c'est un chrétien sur sept qui est gravement persécuté. 81 millions. En 2017, 3066 chrétiens ont été tués, dont 2000 au Nigeria par Boko Haram et puis le peuple Peul, les musulmans. 793 églises ont été attaquées, ce qui est beaucoup moins que les années précédentes. 1922 chrétiens ont été emprisonnés. Pour bien comprendre la persécution, Portes Ouvertes utilise deux aspects pour présenter. Il y a la persécution marteau. C'est cette persécution qui est tellement violente, où les gens connaissent des violences physiques, matérielles. C'est soudain, c'est brutal. Au fond, il s'agit de choquer. Et finalement, les chiffres sont souvent basés sur cette persécution marteau. On sait le nombre de tués, on sait le nombre d'églises qui ont été brûlées, on sait les gens qui ont été sauvagement attaqués, les pasteurs emprisonnés. Non, on sait ça. Et finalement, souvent, les persécuteurs recherchent cette présence médiatique, hein, puisque là, on peut chiffrer, on peut compter, on peut montrer. Mais il y a aussi la persécution qu'ils appellent éto, c'est-à-dire cette persécution qui vous en serre. C'est une oppression qui est plus discrète, faite de rejet, de discrimination, de déni des droits, d'exclusion, d'emprisonnement suite à des procès truqués. Elle est subie au quotidien. Elle touche tous les domaines de la vie du chrétien. Sa vie privée, sa vie familiale, sa vie sociale, sa vie civile, sa vie ecclésiale. Et cette forme de persécution, elle est certainement moins visible que la première, mais elle a souvent beaucoup plus d'impact, un impact néfaste. Un ancien musulman converti à Christ témoigne, « Les gens ont dit de moi, le démon du christianisme est entré en lui. » Alors, plus personne ne lui parle, plus personne ne veut l'embaucher. Sa famille est même obligée de le rejeter parce qu'ils ont peur que de subir les mêmes persécutions alors qu'ils n'ont pas la même foi encore. Ses enfants ne peuvent plus être scolarisés. Une jeune femme témoigne. Mes parents m'ont mis dehors depuis que j'ai connu Jésus-Christ comme sauveur. Je n'ai aucun endroit pour dormir. Pour une jeune femme, dans mon pays, c'est un danger extrême. Alors je suis rentré chez moi. Ma mère m'a jeté de l'eau bouillante au visage. Voyez-vous, quand on est victime d'une telle oppression, le seul recours est en Dieu. Et la prière, alors, elle devient permanente, constante. Le chrétien vit dans l'attente du retour de Christ. Sa vie, elle n'est pas ici-bas. Sa vie, elle est cachée en Christ. Jusqu'au jour où Christ paraîtra. Alors il paraîtra lui aussi dans la gloire. Le danger qui nous guette est de n'avoir aucune demande à formuler au Seigneur. Au fond, on a une vie tellement tranquille qu'on pourrait même se passer de lui. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut pas se passer de lui. On a d'abandon. Vous l'avez? Sujet de prière. Dans l'évangile de Luc, chapitre 11, Jésus enseigne ses disciples sur la prière. Et il va leur donner le Notre Père. Et dans le Notre Père, il dit, priez, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et juste après, il va raconter une parabole, c'est la parabole dite des trois amis. Il y a un ami qui vient voir un ami en pleine nuit. Il a faim, mais il n'a rien à manger. Alors, ce deuxième ami va trouver un troisième ami en pleine nuit, il le réveille, il lui dit, donne-moi trois pains, parce que j'ai un ami qui vient d'arriver chez moi, j'ai rien à lui offrir. Prête-moi trois pains. Et il le lui prête. Et juste après, il dit, toujours dans le chapitre 11, il dit, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Jésus parle que du pain. Mais si nous limitons nos prières ou notre vie de prière à nos propres besoins alimentaires, finalement, l'instant où ils sont pourvus, j'ai plus besoin de Dieu. Et dans notre société, on est tellement confortable que finalement, assez rapidement, on n'a plus besoin de Dieu ou de prier pour ces choses-là. Mais Jésus en donne encore deux enseignements. Et il nous donne un enseignement, c'est de répondre aux besoins des autres, notamment de nos frères et sœurs, de nos amis qui viennent nous voir, qui nous dirigent, qui nous visitent quelque part en pleine nuit. Et là, ils ont besoin et nous, on est là, mais on n'a pas de quoi leur offrir. Alors, on va voir notre ami et on le supplie d'intervenir et de pourvoir à ce qui nous manque pour nos amis. Vous savez, dans notre France actuellement, on a tout autour de nous des jeunes femmes qui sont dans une grande précarité. des frères et des sœurs iraniens qui ont tout abandonné pour trouver refuge en France. Au passage, l'Iran, c'est le pays, fait partie du top 10 des pays les plus persécutés au monde. Nous avons des sujets de prière. On peut venir demander du pain pour eux, un logement pour eux, un accueil pour eux. On a une quantité incroyable de sujets et des choses pour lesquelles on est incapable de répondre. On est complètement démunis. Le seul qui puisse répondre, c'est notre Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous invite à aller vers lui, à chercher sa face, à lui faire connaître nos besoins. Et puis, nous devons aussi demander le pain. Le vrai pain, celui qui vient du ciel, celui seul qui peut rassasier le cœur. Et là, encore, nous avons une multitude autour de nous. Oh, des Français en masse. Et puis des étrangers qui meurent sans connaître le Sauveur. Qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Qui ont besoin, qui ont soif, qui ont un appétit pour entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Qui sont affamés. Comment est-ce qu'on va leur annoncer ça? Qui ira? On est dans la crainte, on est démunis, on n'a pas la langue, mais tout ça, c'est nos besoins. Venons à Dieu, qu'il va, lui, va nous donner ce dont on a besoin. Si on lui demande du pain, est-ce qu'il va nous demander nous donner autre chose? Un scorpion? Non, jamais de la vie. Une pierre? Jamais de la vie. Je pense à tous les musulmans qui viennent de finir Ramadan, qui s'imaginent que par leurs œuvres, leurs efforts, ils peuvent mériter le ciel, alors que le salut de nos âmes est hors de prix. Nous ne pourrons jamais en satisfaire le prix par nos bonnes œuvres, par l'argent, par l'or, par le jeûne, la prière. Seule l'offrande de Jésus-Christ, parfaite, peut satisfaire la justice de Dieu. Et racheter nos âmes. Comment croiront-ils? Comment pourvoir à leurs besoins? Pouvez-vous sauver une âme? Non. Et c'est pour ça qu'on a d'abondants sujets de prière et qu'on ne devrait pas se relâcher. C'est une parabole pour ne pas se relâcher. Et puis c'est aussi une parabole pour comprendre qui est notre Dieu. Cette parabole, c'est un enseignement du Seigneur par contraste. Et c'est très important de saisir cela, sinon nous allons nous tromper dans notre compréhension de la personne de Dieu. Jésus est en train d'enseigner par contraste. Jésus n'enseigne pas que Dieu est comme le juge unique, que nous devrions l'assaillir de nos prières jusqu'à ce qu'il veuille bien nous exaucer. Dans ce cas, nous faisons de Dieu un Dieu qui est un juge inique, au fond, qui n'est pas intéressé par la justice, qui n'est pas intéressé par nos prières, par nous, comme s'il pouvait être sourd à la détresse de ses enfants qui sont persécutés, comme s'il pouvait être sourd à ceux qui sont déportés, emprisonnés, tués, affamés. Laissez-moi poser quelques questions. Est-ce que nous persévérons dans la prière parce que nous pensons que la qualité de nos prières dépend de la quantité de nos mots? C'est-à-dire, plus je vais lui dire, plus je vais lui rabattre les oreilles, plus il va finir par m'entendre. L'enseignement de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 7, dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Peut-être vous avez prié déjà pour quelqu'un. Ça fait 20 ans ou 30 ans que vous priez pour une personne. Et puis finalement, après ces longues années de prière, elle se convertit. Et vous imaginez, waouh! C'est comme si il y avait mes prières étaient comme dans un vase, et puis j'ai jeté des prières pendant 20 ans, j'ai mis des prières. Le vase est plein. Il ne faut pas que ça déborde. Alors Jésus dit, oh, j'exauce. Est-ce que c'est ça notre conception de la prière? Si c'est notre conception de la prière, alors nous sommes des héros. Et Dieu exauce à cause de nous. De notre persévérance, de notre fidélité, de l'abondance de nos mots, de nos prières, jour après jour, jour après jour. Mais non pas à cause de lui, à cause de ce qu'il est. Est-ce que nous répétons nos prières parce que nous pensons que Dieu ignore la situation et qu'il a besoin d'être informé? Dans ce cas, notre Dieu n'est pas omniscient. Ou bien est-ce que nous prions pour l'informer de la situation, ou bien, au fond, il connaît la situation, mais il ne mesure pas l'ampleur de la situation. L'urgence. Et dans ce cas, notre Dieu n'est pas sage, n'est pas intelligent. Est-ce que nous pensons qu'il est débordé par la multitude de nos prières, de nos demandes, et que là, ça s'empile sur son bureau, comme chez moi là-haut, et puis que, à force de prières, mon dossier, là, il repasse sur le dessus de la pile? Est-ce que c'est ça? Si c'est ça ma conception de la prière, alors Dieu n'est pas tout puissant. Il est assez limité, faible. Est-ce que nous répétons des prières parce que nous pensons que Dieu ne veut pas y répondre et que par nos prières, nous allons fléchir son cœur qui est un peu dur et que finalement, on va le rendre plus aimant et plus compatissant? Est-ce que nous répétons les prières parce que nous pensons que Dieu va finir par se lasser et va peut-être s'émouvoir par notre zèle et notre détermination? Nous allons faire finalement fléchir sa volonté et nous allons le convaincre? Mais vous voyez l'absurdité de ça. Si c'est cela notre conception de la prière, alors notre conception de Dieu est totalement erronée. Dieu n'est pas comme le juge inique. Le juge n'a pas de crainte de Dieu, il n'a pas d'intérêt, il n'a d'intérêt pour personne. Il a finalement fait justice à cette veuve parce qu'il était plus facile pour lui de rendre la justice plutôt que de continuer à faire le mal. Il a exaucé parce que le matin en arrivant au palais de justice, elle était là, elle l'interpellait. À midi, quand il voulait prendre sa pause, avoir un peu de repos, paf, elle était là à nouveau et elle lui parlait. Et le soir, quand il sortait du boulot, elle était là et elle l'accompagnait jusqu'à ce qu'il rentre chez lui. Et je vous parle pas des emails et des coups de téléphone, des messages laissés, déposés sur son répondeur et des banderoles sous sa fenêtre. Il l'a exaucé pour avoir la paix. Dieu ne nous exauce pas pour avoir la paix. Dieu est intéressé par nous. Il est intéressé par ce qui nous touche. Il est intéressé par nos besoins, par nos préoccupations. Dieu, il nous aime. Il est passionné par nous. Il a livré sa vie pour nous. Ce que Dieu est, il l'est infiniment. Ça veut dire que Dieu est infiniment bon. Il est infiniment aimant. Il est infiniment juste. Il est infiniment gracieux. Et là, j'ai appris cette semaine que gracieux, ça ne veut pas dire ce que je pense que ça veut dire. Gracieux, apparemment, ça veut dire plutôt... Mais vous voyez ce que ça veut dire, dans ma pensée, ce que ça veut dire. Il est rempli de grâce. Il est infiniment désireux de faire grâce. Il est passionné par le désir de répandre sa grâce, disposé à faire grâce. Dieu n'est pas comme le juge inique. Et nous ne sommes pas une veuve inconnue de lui. Nous ne sommes pas non plus un numéro de dossier. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses élus. Nous sommes ceux qu'il s'est choisis pour les aimer, pour les faire jouir de son amour pour l'éternité. Nous sommes ceux pour lesquels Jésus, le Fils bien-aimé du Père, s'est offert en sacrifice pour que nous puissions être appelés ses enfants. Il nous connaît par notre nom. Voilà pourquoi il veut nous exaucer. Voilà pourquoi on devrait persévérer dans la prière, se jeter dans ses bras, chercher sa présence. Est-ce que ça signifie que nous ne prions jamais avec passion ou de façon importune? Non, pas du tout. La parabole nous explique ça. C'est précisément ce qu'elle enseigne. Toujours prier et ne pas se relâcher, précisément parce que notre Dieu n'est pas comme le juge inique. Il nous aime. Il nous accueille, il nous écoute. L'apôtre Paul dit en 1 Thessaloniciens 3, verset 10, « Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. » Au chapitre 1 de 2 Timothée, verset 3, il dit « Nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. » En Colossiens, chapitre 4, verset 12, Paul cite Épaphras qui ne cesse de combattre pour vous dans ses prières « afin que vous teniez bon. » Au contraire, si nous avons compris que Dieu n'est pas un juge inique, mais qu'il nous aime, qu'il est parfaitement juste, alors nous serons portés à prier avec persévérance. Oh, venez à lui, venez dans sa présence, faites-lui connaître vos besoins, répandez vos cœurs, plaidez devant sa face. Et c'est aussi une parabole pour attendre sa justice. Le grand problème qui est là pour, devant nous, c'est, d'accord, Dieu, il n'est pas le juge unique. Donc, je peux venir le voir avec pleine confiance et répandre mon cœur devant lui. Lui, il connaît mes besoins avant même que je les prononce. Et je n'ai pas besoin de lui casser la tête. Mais alors, pourquoi il ne répond pas immédiatement? Pourquoi, bien souvent, il me fait attendre? Notre problème, c'est l'absence de réponse ou le silence de Dieu. Et Jésus dit, Luc 18, verset 8, « Je vous le dis, il leur fera promptement justice. » Il leur fera promptement justice. Seigneur, tu dis promptement justice, mais j'ai le sentiment d'attendre. Peut-être, déjà, il faut préciser que promptement, ça ne veut pas dire immédiatement. Promptement, ça signifie sans aucun retard, sans tarder. Et ne nous fait pas attendre parce qu'il est débordé. Il n'est pas silencieux comme le dieu des prophètes de Baal dont se moque Élie sur le mont là. Et il dit « Ah mais peut-être il est en vacances votre Dieu, ou peut-être il dort. Parlez plus fort. » Notre Dieu n'est pas comme ça. Il ne prend pas de vacances. Alors si nous devons attendre, c'est forcément qu'il y a une raison supérieure à celle-là. Par exemple, en 2 Pierre 3 et au verset 9, l'apôtre dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Il est en train de dire « Si le Seigneur ne revient pas maintenant, c'est parce qu'il a... Il suspend sa justice pour pouvoir faire entrer dans sa patience, dans sa bonté, d'autres âmes à le connaître. J'ai lu ce témoignage en regardant sur Portes Ouvertes. Un gars qui a été un ex-musulman, il s'est converti à Jésus-Christ. Et puis, à cause de sa foi, il est jeté en prison. Il a d'abord été jeté de sa famille et puis ensuite... jeté en prison. Sa famille n'avait aucune nouvelle. Lui n'avait aucune nouvelle d'eux. Et puis, après plusieurs années d'emprisonnement, il sort de prison et il décide de téléphoner à son père. Il est fébrile, là. Et son père lui dit, ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Où tu étais? On t'a cherché partout. Il dit, papa, depuis que vous m'avez jeté, j'ai été aussi jeté par la société. Je me suis retrouvé emprisonné à cause de ma foi. Et il lui dit, mon fils, je connais moi aussi maintenant le Seigneur Jésus. Viens à la maison. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'est pas revenu pendant qu'il suppliait dans le fond de sa prison, « Seigneur, reviens, Seigneur, reprends-moi, Seigneur, amène-moi dans ta présence, fais-moi justice. » Pourquoi est-ce que Dieu l'a pas fait là? Parce qu'il avait en vue ses parents, son père, sa mère. Voyez-vous, quand Dieu ne répond pas immédiatement, il a une raison supérieure, mais il répond promptement. C'est-à-dire sans délai, sans retard, au bon moment. Et le silence de Dieu met notre foi à l'épreuve, n'est-ce pas? Nous ne comprenons pas pourquoi le Seigneur semble tarder. Et le livre d'Habacuc, justement, il a été écrit pour ça. Parfois, peut-être on n'est pas passionné par les petits prophètes, mais je vous encourage à lire ce petit livre. Et il répond en partie à cette question. Au début du livre d'Habacuc, le prophète interroge Dieu parce qu'il voit le peuple d'Israël qui est complètement corrompu. Et il dit, mais Seigneur, jusqu'à quand tu vas laisser ce peuple se corrompre sans intervenir, sans le juger? Et puis Dieu fait connaître sa réponse. Il dit, je vais le juger. T'inquiète pas, je vais le juger. J'ai même prévu d'envoyer une nation, les Chaldéens, les Babyloniens, pour les juger. Et ils vont les juger. Et même les déporter. Et à ce moment-là, Habacuc dit, mais comment tu peux faire un truc pareil? Seigneur, ils sont pires que les Israéliens. Ils sont pires que tes enfants. Et Dieu va répondre à cette question en disant, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, parle des Chaldéens. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Et juste après cela, il va décrire tous les malheurs qui vont atteindre les Chaldéens. Habacuc qui dit, ah, c'est bon, oh là, une justice va être... Mais il lui dit, mais le juste vivra par la foi. Ça signifie, c'est comme si Dieu lui dit, tu sais, je vois, je gère parfaitement. Et je juge aussi avec équité. Toi, fais-moi confiance. Toi, attends ma justice, patiemment. La justice que tu appelles, elle viendra plus parfaite encore que ce que tu ne peux imaginer. Croyez Dieu. Croyez-le, il est juste, il est parfait. Et cette parabole, elle est là pour nous enseigner à attendre Dieu. Le verset 8, quand il dit, mais trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce que les gens vont attendre encore après moi, dans ma justice, pour qu'elle soit révélée? La conclusion, Jésus nous laisse avec cette question. Trouvera-t-il la foi? Cette attente, cette confiance en Dieu, cette espérance en lui. Est-ce que nous sommes certains que la justice triomphera? Que le pécheur sera condamné et le croyant glorifié? Attendez-vous à Dieu. Précisément à cause de ce qu'il est, il est infiniment juste, infiniment sage, infiniment fidèle. Ce qu'il promet, il l'accomplira. Je voudrais terminer avec ça. Vous avez déjà remarqué que dans le Seigneur nous a enseigné à prier le Notre Père. Et dans le Notre Père, il dit « Que ton règne vienne ». Dites « que ton règne vienne. Et dans notre pensée, on est là, Seigneur, le sujet, c'est toi qui le donnes. Certainement, tu veux l'exaucer. D'accord ? C'est un bon sujet. Que ton règne vienne. Mais ça fait 2000 ans, Seigneur, que tous tes enfants, tous, s'ils font une prière, c'est ils disent que ton règne vienne. Mais ton règne n'est pas encore venu. Et c'est là où il y a une chose importante à saisir. C'est qu'il y a deux dimensions au règne, au royaume de Dieu. Dans une première dimension, le royaume est encore à venir, effectivement. Le Seigneur va venir, et puis il va régner, et puis il ne se fera plus aucune injustice sur la terre, aucun dommage sur la terre. Mais il y a une autre dimension de ce royaume. Et le royaume est déjà là. Il règne dans nos vies. Il règne dans nos cœurs, sur nos cœurs. Et il dirige et il conduit ses enfants. Et quand les pharisiens disent, mais quand est-ce que ton royaume viendra? Au chapitre 17, verset 20, il dit, je vous le dis, le royaume est au milieu de vous. Il est déjà là. Ah, bien sûr, il n'est pas encore là, il doit venir. Mais il y a une autre dimension où il est déjà là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quand on prie, Seigneur, que ton règne vienne. Dieu va répondre en son temps à cette première dimension. Il ne tarde pas. Il va répondre même promptement. Mais il répond aussi à cette seconde dimension en instaurant son règne dans nos cœurs. Sa paix, l'attente tranquille de la délivrance, la confiance ferme en Dieu qui nous aime et dirige parfaitement nos vies. Prier, au fond, c'est vivre le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est encouragé à persévérer dans la prière. Parce que pendant qu'on prie, on est en train de faire descendre le royaume de Dieu dans nos cœurs. Et ça, c'est ce dont on a le plus besoin. De rester dans sa paix, dans sa confiance. Notre Dieu est juste. Il interviendra, il accomplira. Pourquoi persévérer dans la prière? Parce que son royaume descend dans nos cœurs, dans la prière. Les temps qui verront le retour du Seigneur seront des temps où l'apathie gagnera, l'amour du plus grand nombre se refroidira, dira Jésus. Les hommes seront préoccupés par eux-mêmes. En Marc 13, Jésus, parlant de son retour, il dit à trois reprises, « Veillez et priez. Veillez, je vous le dis, veillez, priez. » Oui, cette parabole du juge unique nous enseigne à persévérer dans la prière. Mais plus encore, elle nous enseigne à persévérer dans la foi. Il n'a pas dit, est-ce que les hommes ne prieront pas? Non, est-ce qu'ils auront foi? Faites confiance à Dieu. En fait, la foi s'exprime dans notre prière. Oui, il trouvera de la foi sur la terre. Il trouvera un peuple qui prie sans cesse, qui lui fait totalement confiance. Où en êtes-vous dans la confiance que vous portez à Dieu? Où en êtes-vous dans les situations que vous traversez? Où en êtes-vous? Est-ce que vous dites, Seigneur, tu m'entends plus? Ou est-ce que Dieu est en train de dire, je veux régner sur ton cœur. Je veux que dans cette situation terrible que tu traverses, je veux que ton cœur soit gardé près de moi, confiant en moi, espérant tout entier en moi. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Il l'a prouvé en donnant Jésus. C'est lui qui est mort à votre place, payant pour vos péchés. C'est en croyant en lui qu'on trouve un plein pardon et la vie véritable. Ne vous découragez pas. Dieu va vous exaucer. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser, imaginez, il va le faire dans votre cœur, premièrement. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde attaché à lui, fermement, persévérant dans la prière, dans la foi. Amen.